et vous écoutez France Culture. L'abbesse était une femme menue et voûtée. Elle parlait d'une voix claire et ses yeux passaient sur vous comme si vous n'étiez pas pleinement là. Léo Henry. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre à la crête des cieux, en ce samedi, apparaît avoir été il y a une semaine au tréfonds des enfers. Nous recevrons en effet Léo Henry, l'auteur du Casse du Continuum et de La Panse, publié aux éditions La Volte, Hildegarde, un maître livre sur la mystique catholique bénédictine Hildegarde de Bingen, figure phare du Moyen-Âge allemand, poétesse, musicienne, visionnaire et prophétesse. Mauvais genre prend le voile, c'est maintenant sur France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre. Alors comme je le disais en ouverture, il y a une semaine, nous étions au fin fond des enfers avec Julien Rousseau et Stéphane Duménildo. Nous visitions l'exposition que je recommande toujours néanmoins, Enfer et Fantômes d'Asie, formidable exposition donc au Cré Branly. Et aujourd'hui, bien, j'ai pensé qu'il était utile que nous changions d'univers et que nous lavions nos âmes sales, et ce en compagnie de Léo Henry. Bonsoir Léo Henry.
Bonsoir.
Alors Léo Henry, bah, vous êtes quand même un personnage très important dans la fiction, ce qu'on appelle aujourd'hui les fictions de l'imaginaire. Vous publiez dans des options, avec des options très très différentes. Vous étiez venu nous voir pour le Casse du Continuum. Il y a également La Panse, qui est une sorte de grand thriller qui se passe à la Défense, si mon souvenir moi, après Lovecraftien. Donc vous étiez jusqu'à présent noté sur un certain type de texte. Et puis là arrive cet ouvrage étonnant en 2014, quand vous étiez venu nous voir avec Mathias Echenet à l'occasion des 10 ans des éditions La Volte, la question traditionnelle, mais quel sera votre prochain livre? Vous nous aviez dit, ah, c'est un gros travail sur Hildegarde de Bingen. J'avais évidemment pas oublié la chose, et alors, évidemment, le livre est arrivé, et c'est quand même un éblouissement, parce que c'est quand même le plus beau bouquin, quand même, que l'on ait en cette fin de saison, en ce qui concerne l'imaginaire francophone. Donc, soyez le bienvenu. Léo Henry, vous serez confronté aux questions de Céline Duchesnay.
Bonsoir, François.
Qui,
bonsoir,
après, Léo Henry. Après une production sur une série sur les sorcières, elle aussi a bien besoin d'un peu de blancheur virginale.
Et bien qu'il y a de la sorcière chez Hildegarde, je crois.
Justement, on va voir en quoi. Et puis, le père Rivera.
Bonsoir François.
Le père Rivera qui est là pour trancher les débats concernant tout ce qui est théologie, ésotérisme et autres. Alors également deux chroniques dans cette émission, Jean-Luc Rivera qui
oui,
seront...
Comme nous allons nous élever spirituellement, voilà. Je ne peux pas résister au plaisir de rabaisser un petit peu ensuite en parlant d'une part d'une possédée et d'autre part d'occultisme nazi.
Très bien, bah écoutez, on sera attentif et ce sera en fin d'émission car avant cela, bien évidemment, nous serons dans l'univers lilial, virginal, visionnaire et magnifique d'Hildegarde de Bingen grâce à Léo Henry. Mais avant cela, moment rituel à mauvais genre, comme tous les samedis, l'ouverture de l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et ce soir, Céline, c'est
un double M.
Un double M.
M comme Molk et M comme Marc. Marc Molk.
Il fait partie d'une série qui s'appelle Le sexe éternel. Ici, je les ai simplement numérotés. Habituellement, les calligrammes ont des noms plus précis. Là, en l'occurrence, il décrit un phallus en érection, mais d'où sort... On pense au sperme, mais ça ressemble davantage à la queue de cheval des cavaliers de la garde républicaine, graphiquement. Et en face, puisqu'ils fonctionnent par couple, il y a un sexe féminin, une vulve, on voit le clitoris, les grandes lèvres, les petites lèvres. Et ces deux calligrammes, en fait, donc, sont des dessins qui sont, dont le trait est constitué d'écriture, avec de l'encre de Chine. J'écris un texte, mais qui à la fin, par son déploiement, son cheminement, crée une forme. Et puis, donc concernant ces couples de sexe, en calligramme toujours, je suis assez... je viens pas de m'en rendre compte, je suis un peu un sentimental perdu dans une époque brutale. Et pour moi, d'une certaine manière... Je n'arrive pas en fait à dissocier l'érotisme ou le sexe du couple ou de l'amour, c'est ridicule. Disons que personnellement, mes expériences sexuelles était incroyablement plus puissante et vaste et dans un contexte amoureux que dans un contexte de animal.
J'ai découvert ces deux calligrammes de Marc Molk au fil des pages en feuilletant une anthologie de poésie érotique contemporaine. Lovée dans un recueil qui rassemble aussi bien des poèmes à la sensualité pudique qu'à l'obscénité radicale, mêlés à des études de chercheurs, des entretiens et des œuvres visuelles, les calligrammes de Marc Molk semblaient résonner et vibrer, alliant texte et images, rendant ainsi hommage à ce livre érudit et intense. Le titre de ce livre, Masque, corps, langue, les figures dans la poésie érotique contemporaine, un livre sous la direction de Caroline Crépia et de Lucie Lavergne, sorti aux éditions Classique Garnier. On y trouve des poèmes en grec, en espagnol, en français, on y apprend beaucoup, on se cultive aussi, et pour le plaisir des yeux, on se prend à coller son visage sur les calligrammes érotiques de Marc Molk afin de découvrir son écriture si fine.
Certaines fois, il y a une résonance entre le texte et la forme, pas nécessairement illustrative, mais en tout cas une cohérence, et quelquefois, c'est un contre-pied. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de faire de grands calligrammes érotiques où on voyait deux visages de femmes en train de prodiguer une fellation à un sexe masculin, et le texte qui était utilisé pour le calligramme, c'était la fin de la princesse de Clèves, où elle explique au duc de Nemours qu'ils n'auront jamais de relations sexuelles, alors qu'ils s'aiment à la folie tous les deux, mais pour elle, le fait que le prince de Clèves soit mort de chagrin par sa faute rend son amour avec le duc de Nemours impossible. Et donc, quelquefois, par exemple, sur ces deux grands calligrammes qui représentent des squelettes en train de danser, soit celui-ci avec une étole, celui-ci avec un sabre et un encensoir, le texte est extrait de la philosophie dans le boudoir de Sade. Donc en fait, on voit des calligrammes qui font environ 70 cm sur 50 cm qui représentent des squelettes, donc c'est une vanité, c'est un peu morbide. Mais si on lit le texte, si on s'approche parce que c'est écrit assez finement, on se rend compte que le texte, ce sont des parties fines où tout le monde s'embroche, se lèche. Et ça m'amuse assez de voir des gens comme ça observer des squelettes sans se rendre compte en fait que ce qu'ils regardent, c'est un texte qui décrit une partouze. Et puis je me dis qu'il y a aussi dans ce contre-pied l'idée du memento mori, c'est-à-dire il faut se souvenir de vivre, parce que quand je les regarde moi-même, je ne sais pas si ça signifie à quoi bon jouir puisqu'on va mourir, ou alors pressons-nous de jouir parce que nous allons mourir. C'est assez classique hein, comme mise en balance, Eros et Thanatos, etc. Mais on voudrait réinventer la roue, on pourrait pas faire mieux, donc... Donc après, chacun l'a fait tourner à sa manière. Moi, je l'ai fait tourner comme ça.
Les calligrammes de Marc Molk sont à retrouver dans cet ouvrage « Masque, corps, langue, les figures dans la poésie érotique contemporaine », un livre sorti aux éditions Classique Garnier sous la direction de Caroline Crépia et de Lucie Lavergne, mais vous pouvez aussi retrouver ces calligrammes sur le site internet de Marc Molk, www.marcmolk.fr, l'occasion rêvée de découvrir son travail dans sa vaste diversité, car l'homme est aussi bien écrivain que peintre. Et je repense tout à coup à ces peintures qui représentent des corps, parfois même une culotte ou un soutien-gorge flottant. Encore, on est loin du trash, plutôt du côté de la sublimation, une vraie délicatesse, sans jamais pencher dans le mièvre. Les couleurs, leur pétillance, les poses, de quoi faire un autre type de voyage à la douceur érotique dans l'univers de Marc Molk.
Merci Céline pour cette entrée. Marc Molk de notre encyclopédie pratique. Les mauvais genres, Léon Henry, une réaction sur cet univers où les squelettes font des partouzes et on se demande s'il faut jouir ou se repentir.
Mais moi, je trouve ça très joli. Oui. Écrit petit, j'aime bien. Écrit petit, puis quand pour lire, il faut effectivement mettre le nez dessus. Et du coup, on ne voit pas ce qui est dessiné, donc il faut reculer. Non, c'est vrai, c'est chouette.
Eh bien, je ne peux qu'approuver cette lecture à deux temps, vue de loin et vue de près avec les mots qui se déploient. Lettre par lettre, il y a quelque chose de très calligraphique aussi qui peuvent nous faire penser aux copistes médiévaux qu'on va bientôt retrouver.
Ah, bah absolument. Sinon, en ce qui concerne Classique Garnier, je n'aurai de cesse de rappeler à nos auditeurs de surveiller leur parution puisqu'il y a beaucoup de travaux universitaires touchant l'univers des genres qui paraissent chez eux. Alors, il y a celui dont vous avez parlé, Céline, également sur la littérature post-apocalyptique. Il y a beaucoup de choses intéressantes et notamment la mise en chantier d'une nouvelle œuvre, de nouvelles œuvres complètes de Huysmans. Un premier volume est paru. Le second, ce sera là-bas, consacré, comme chacun sait, au Lucifer. Et à tout ce qui était justement l'ésotérisme fin de siècle. Donc on en accueillera bien sûr l'éditeur quand le livre sera paru. Et tout le monde sait que là-bas, eh bien, il est centré autour de la figure de Gilles de Rais. Mais c'est pas cette grande figure donc, de Gilles de Rais qui va nous retenir ce soir, mais bien celle beaucoup plus suave, mais tout aussi ferme, d'Hildegarde de Bingen. La première fois que je l'ai vue, elle était seule dans le jardin et travaillait, agenouillée dans la boue. Elle m'a salué sans se relever et n'a eu à porter sur moi qu'un seul regard pour établir qui j'étais, d'où je provenais et ce que je souhaitais d'elle. Elle était déjà vieille femme, mais dotée d'une énergie telle qu'elle aurait pu tenir tête à n'importe quelle fille et à un certain nombre de garçons. Elle était petite de taille et solide de complexion. Ses épaules et ses hanches étaient larges, elle avait les cheveux bruns et gris, les yeux presque noirs. Les expressions passaient vivement sur son visage et toutes étaient violentes et authentiques. J'ai vu sur ses traits, plus que sur ceux de quiconque, ce qu'étaient la joie et la douleur, la compassion, la sévérité. Un extrait donc d'Hildegarde de notre invité Léo Henry, porté par la musique d'Hildegarde de Bingen, puisqu'elle était également musicienne, compositrice au Virtus Sapientiae, jouée par le groupe Sequentia, un groupe américain qui d'ailleurs s'est fait une réputation à interpréter la musique d'Hildegarde de Bingen. Alors, à mauvais genre, traditionnellement, on est attiré vers les saintes de l'abîme, comme on dit, vers les fées et autres créatures des ténèbres. Eh bien, aujourd'hui, nous, c'est une émission en blanc avec Hildegarde de Bingen, puisque le livre de Léo Henry est bien tout entier, une fiction qui est tout entière baignée par une extraordinaire merveilleux médiéval, et le merveilleux appartient aussi au genre que nous défendons. Alors, Léo Henry, on vous connaît dans d'autres territoires, je l'ai dit en début d'émission, vous pourriez d'abord nous expliquer ce qui vous a attiré vers Hildegarde de Bingen, au point de faire ce livre qui quand même est une splendeur, un livre de près de 500 pages que vous lui avez entièrement consacré. Enfin, à elle, et pas seulement à elle, puisque c'est un livre qui remet en scène toute cette partie du Moyen-Âge, que ce soit les croisades, que ce soit toutes les figures singulières de théologiens qui pouvaient s'y trouver.
J'ai commencé à penser à Hildegarde il y a vraiment longtemps maintenant. Enfin, j'ai découvert Hildegarde il y a vraiment longtemps, dans les années 90, quand j'étais un petit garçon, et j'ai découvert dans un jeu vidéo. Il y avait une énigme à résoudre dans le point and click de Indiana Jones, et il fallait jouer un air de Hildegarde de Bingen sur un clavier en os. C'était abominable, c'était une épreuve insupportable. Mais du coup, ce nom est resté gravé au fer rouge dans mon cerveau, et je l'ai retrouvé pendant mes études. Je suis tombé par hasard sur une illustration. Et donc, du coup, j'avais commencé à faire un tout petit peu de documentation, mais très, très superficielle. Et en fait, c'est en 2006, j'habitais au Brésil à cette époque-là, et j'étais revenu en France pour faire quelques sous. Et du coup, je travaillais dans une usine au bord du Rhin. Et du coup, voilà, j'avais un peu la nostalgie du pays. C'était le mois de décembre, et c'était très sombre, comme ça, c'était un très exotique par rapport à là où je vivais. Et je me suis dit que j'allais faire un grand livre rhénan. Ouais, je voulais faire un gros livre sur cette région du monde. Donc moi, je suis strasbourgeois de naissance, et c'est là que je vis encore. Et du coup, je voulais essayer de cerner ça. Voilà. Et du coup, Hildegarde a été un biais que j'ai utilisé pour aller à cet endroit-là.
D'ailleurs, j'aime bien cette expression d'un grand livre rhénan, puisque c'est un livre qui ressemble, qui s'écoule. C'est pas un livre qui avance de manière heurtée, chahutée, ou qui est soumis à des espèces de ruptures. C'est un grand livre qui s'écoule comme un fleuve, comme une barbe, comme une mélodie, comme quelque chose d'à la fois majestueux et d'uni. Et ça, c'est comme Céline Duchesnay, tout à fait remarquable, cette espèce de livre comme ça sur lequel on se laisse porter. Vraiment, le sentiment d'être porté par le texte.
C'est sûr que de toute façon, ce fleuve, le Rhin, est très présent et on le retrouve tout au fil du livre, mais moi, en le lisant, j'avais l'impression que Léo Henry était comme un moine compilateur du Moyen-Âge, parce que finalement, ce texte qui parle d'Hildegarde n'est pas entièrement consacré à elle, ce n'est pas du tout une biographie, on pourrait parler de la forme tout à fait passionnante que prend ce texte-là. On a l'impression que c'est une série de récits qui, ou bien sont enchâssés les uns dans les autres, ou alors qui sont comme ces textes médiévaux qu'on peut trouver encore aujourd'hui à la bibliothèque, ou dans un seul ouvrage sous une même couverture, vous avez un certain nombre de livres qui ont été mis les uns derrière les autres. Et en lisant donc l'ouvrage de Léo Henry dans sa globalité, on a l'impression d'avoir un moment du Moyen-Âge, mais je dirais comme les hommes et les femmes médiévaux.
Jean-Luc Rivera.
Oui, c'est tout à fait passionnant parce que c'est une grande fresque qui d'ailleurs part des antécédents d'Hildegarde de Bingen, les sources qui ont pu inspirer la foi d'Hildegarde, je pense à Saint Isibode ou à Saint Rupert, mais ensuite les influences qu'Hildegarde elle-même a eues sur la suite jusqu'à la Renaissance, etc. Et lorsqu'il y a quand même un chapitre qui est plus spécifiquement consacré à la vie d'Hildegarde, et là j'ai eu l'impression de lire en fait les témoignages tels qu'ils ont pu être recueillis lors de l'enquête en canonisation. Donc c'est quelque chose de tout à fait passionnant.
Alors justement, avant, je demande d'analyser la manière dont le texte s'est construit et s'est organisé. Léo Henry, serait utile quand même d'abord pour nos auditeurs et auditrices de présenter Hildegarde de Bingen. Alors moi, je dirais tout simplement, c'est effectivement une figure phare de la culture médiévale allemande, qu'elle était donc moniale bénédictine. C'est une des quatre femmes qui a été docteur de l'Église, avec Thérèse d'Avila, Sainte-Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. Elle a été donc canonisée assez tôt, et puis elle est à l'origine de toute une série de manuscrits qu'elle a écrite en collaboration avec quelques secrétaires érudits, et on traite aussi bien de littérature, de vision, évidemment, parce que c'est une très grande visionnaire. Dès enfant, elle était harcelée et portée par des visions tout à fait étonnantes.
En pleine conscience. Hein,
en pleine conscience.
Ce n'est pas d'extase.
Et en plus de ça, il y a toute la dimension de pharmacopée, la dimension d'apothicaire, puisqu'elle a écrit sur les soins du corps. Donc, personnage très étonnant, très emblématique de cette époque, et extrêmement divers dans ses activités et ses aspects. Fin 11e, début 12e siècle.
Ouais, c'est ça. Elle a vécu assez vieille. Plus de 80 ans, Et elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais en fait, elle a aussi fait beaucoup de choses dans sa post-vie. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'est énormément construit par la suite. Et du coup, le fait d'essayer de remonter aux éléments qu'on a sur son existence réelle met en question un certain nombre de choses. Et une des raisons de la postérité de Hildegard dans les siècles qui ont suivi, c'était qu'on on a fait un recueil de ses citations pour un petit livre qui annonçait l'Apocalypse. Et donc, du coup, elle est devenue assez rapidement la prophétesse de l'Apocalypse, ce qui est quelque chose qu'elle n'avait absolument jamais fait. Et en fait, si on regarde au fil des âges, c'est une figure qui a été réactualisée et à chaque fois pour une raison différente. Donc, comme vous venez de le dire, alors elle a été canonisée très récemment, elle a été canonisée en 2012, alors qu'il y avait un procès qui avait été conduit dès le XIVe siècle.
Ouais, c'est ça.
Mais elle a été canonisée parce qu'elle a eu, en fait, pendant que j'écrivais le livre, je ne suis pas responsable de ça, mais elle a eu un retour de mode par le versant botanique, en fait, pas par ses travaux sur la nourriture et l'alimentation. Mais quand moi je l'ai découvert dans les années 90, elle était connue pour sa musique, et on avait redécouvert une grande compositrice femme de l'Occident. Et puis si on remonte encore, elle a été une figure de la germanité, et puis si on remonte encore, elle a été une femme qui conseillait les puissants, etc. Donc c'est aussi ce que j'ai trouvé fascinant dès le début avec Hildegard, c'est que c'est une figure, du fait qu'elle est historique et qu'elle a traversé les siècles, qui est parfaitement insaisissable, et en même temps avec un corpus d'œuvres attestées, et dont elle a supervisé l'édition de son vivant, donc sur lequel on ne peut pas douter dont on ne peut pas douter qu'elle soit l'autrice, voilà, avec ce que ça implique au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y avait des secrétaires, il y avait des... Mais donc, du coup, on est en présence d'une figure extrêmement bien documentée et en même temps qui reste totalement insaisissable. Et c'est rigolo que vous ayez lu le passage où il y a la description physique, parce qu'en discutant avec Laurence Moulinier, qui est une des spécialistes de Hildegard, elle m'a dit « Mais elle est rousse, Hildegard !» et en même temps, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est pas, il n'y a pas de signe de ça. Et je pense que les Hildegardiens doivent se déchirer sur des questions aussi basiques que ça.
Oui, parce qu'effectivement, j'ai lu un extrait de votre livre, Léo Henry, bien sûr, mais il y a les dizaines de disques qui ont été faits à partir donc, de ces compositions musicales, et puis surtout aussi un nombre considérable de livres récents sur l'art de se soigner avec les herbes, les fleurs et les plantes selon les conseils et les directives d'Hildegard de Bingen. Les milieux New Age ou les thérapies douces sont accordés, sont-ils de gardiens ?
Absolument, avec les questions que ça pose, mais c'est qui sont des préoccupations de savants, de savoir dans quelle mesure les écrits qui sont attribués à Hildegard aujourd'hui sont vraiment d'elle, parce que pour le coup, dans la somme des écrits qu'elle a demandé à avoir recueillis de son vivant, les écrits botaniques ne figuraient pas. Et certains chercheurs pensent qu'il y a une grande partie de ces écrits qui sont apocryphes. En tout cas, c'est vraisemblablement pas là-dessus que portait principalement son intérêt à l'époque. À l'opposé de choses qui rendent les chercheurs extrêmement perplexes, comme sa langue imaginaire, où là, elle a demandé, ou ses compositions musicales, où elle a pris un grand soin à ce que ça lui survive, en fait. C'est ce qui lui tenait à cœur, au même titre que les livres de vision ou que les lettres qu'elle écrivait au pape.
Alors, comment met-on en chantier, comment travaille-t-on un sujet pareil, Léo Henry, en souhaitant éviter ce que vous avez parfaitement fait, les pièges tendus d'habitude, c'est-à-dire le roman historique pâteau et pâteux où l'on peine à transformer en récit un peu lourd tout un tas de fiches, et puis au contraire de se passer de la véracité historique pour bâtir un personnage qui n'a d'historique que le nom et avec que vous soumettez, on peut soumettre à une fantaisie absolument débridée. Donc vous avez évité ces deux pièges. Comment travaillez-vous, et surtout les voix, comment fait-on parler ces personnages du haut Moyen-Âge allemand? Comment travaille-t-on un peu la vocalité, le grain des voix? Parce que là aussi, on a toutes les voix possibles. On a aussi bien les soudards, on a les nonnettes, on a les bourgeois, on a des intellectuels de l'époque. Comment travaille-t-on un peu de manière chorale? Ce roman est un roman choral, toutes ces voix différentes.
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, je ne travaille pas. Non, pour écrire le livre, j'ai fait une grande, grande boîte, qui est toujours comme ça que je procède, et là j'ai pris la plus grande boîte que je pouvais, donc j'ai décidé en fait de la taille dont on devrait faire le livre, et ensuite j'ai rempli. Et j'ai rempli assez laborieusement, parce que effectivement, quand j'ai commencé, j'y connaissais rien, donc j'ai dû faire beaucoup.
Quand vous dites rien, c'est rien du tout, ou vous aviez des éléments Vous êtes parti de zéro, c'est-à-dire
J'avais des fils que je voulais tirer. Il y avait des choses que j'avais découvertes sur Hildegarde qui m'intéressaient de creuser. J'ai presque tout oublié de mon allemand. Je parle pas le latin. J'y connais absolument rien, la vie dans les monastères. Je partais d'assez loin quand même. J'ai fait beaucoup de documentation pour avoir l'impression d'être capable d'écrire sur le sujet. Et après, sur la façon dont le livre lui-même s'est construit, par Strat, c'est en posant ce que j'avais écrit dans la boîte. Et en fait, je comptais, et je suis content si on me dit que ça fonctionne, en fait, je comptais sur la masse pour que ça marche. C'est-à-dire que il y a une des questions qui me travaille et donc que j'ai utilisé dans ce livre, c'est aussi de savoir jusqu'où peut aller la littérature. Et donc, j'ai utilisé la figure d'Hildegarde comme centre, et puis j'ai essayé de suivre les différents chemins que ça irriguait, donc dans ses relations avec d'autres gens, dans les thématiques, etc. J'espère que la masse fait que ces différents chemins que je suis, on voit les endroits où ils se recoupent.
Oui, parce que c'est un livre, je vous rassure tout de suite, qui ne fait pas masse, mais qui chante sur toute sa durée. Sylvia Castel, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist Hildegardienne de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture, Monseigneur Rivera.
Et nous parlions du langage à travers ce livre, effectivement, et du foisonnement. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à travers la richesse de tous les personnages que vous mettez en scène et qui apportent leur témoignage, finalement, vous réussissez à très bien rendre la foi qui anime tout ce monde du Moyen-Âge et qui est aujourd'hui un phénomène qui a tendance à nous échapper. Au XXIe siècle, la manière de vivre la foi de comme cela nous échappe complètement. Et ça, comment avez-vous fait pour réussir à retrouver cet esprit ?
Eh ben, je crois que... En fait, je me suis posé la question. C'est la même question, je pense, que pour le rapport au matériau historique. Je crois que ce qui m'intéresse, c'est de savoir... au contraire, ce qui est exactement pareil. Et donc, du coup, de voir ce qui, dans notre vie, n'a absolument pas changé depuis 1000 ans. Voilà. Après, sur l'aspect culturel de la foi, effectivement, enfin, la vie monastique, c'est aussi une question que je trouve intrigante. Parce que je pense qu'une énorme partie de notre imaginaire vient de là, en fait. Et que donc après on peut l'articuler ou pas, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant en tant qu'auteur de littérature de mauvais genre, et en particulier en m'intéressant à l'SF et à la fantasy, que la fantasy soit un endroit où le merveilleux, dont le merveilleux a été ôté. Et dans les grands recueils de contes du 18e, en fait, il y a énormément de contes donc qui font partie des contes populaires, au même titre que le corpus utilisé par Walt Disney, qui sont des contes religieux, mais qui, eux, ont été mis de côté pour des raisons de rapport politique, en fait, à la religion. Mais je pense que cet imaginaire religieux, en fait, ne nous a absolument pas quittés. Voilà. Et donc, du coup, c'était aussi ça, c'était l'idée d'essayer de faire un livre de merveilleux chrétiens, donc qui appartiennent à ce genre littéraire, qui est la réalité de la vie des saints, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai lu aussi. J'ai lu des livres sur comment écrire une bonne hagiographie. Et donc, pour écrire une bonne hagiographie, le style littéraire...
Père Hippolyte de Lehaye, par exemple.
Ou Jacques de Voragine.
Et le style littéraire de Jacques de Voragine, c'est Le Merveilleux Chrétien. Le Merveilleux Chrétien est le registre du réalisme. Et du coup, je trouvais que c'était une expérience intéressante à tenter dans la littérature de mauvais genre. Voilà. Après, moi, j'ai un rapport à ça qui est aussi assez distancié. C'est-à-dire que j'ai essayé de marcher sur une corde fine en étant à la fois très respectueux de cette culture et en même temps j'espère que j'ai pas fait un livre calotin. Enfin, l'idée c'est pas
de pas un livre calotin du tout. Céline Duchesnel.
Il y a aussi dans ce livre je dirais la sensation du Moyen-Âge, parce que le livre est quasiment à chaque fois écrit à la première personne. Ce sont des personnes qui s'expriment, alors qu'on sait que justement la notion d'auteur au Moyen-Âge est une notion qui est tout sauf évidente. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tout est vu à hauteur d'homme ou de femme, et que ce soit même face à l'immensité du monde. C'est-à-dire que quand les différents personnages se déplacent, ils se déplacent ou à pied ou à cheval dans le meilleur des cas. Donc on a la sensation du temps qui passe, on a la sensation de la géographie, du paysage qui se transforme. Et je trouve que aujourd'hui, alors qu'il est si simple de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, rester dans cette sensation du pas des pieds mis l'un devant l'autre, ça nous donne le vécu, en tout cas, de l'homme et de la femme médiévale. Et du coup, ça nous donne aussi cette sensation de l'immensité du monde et du mystère, puisque le simple fait d'aller en Italie quand on est du côté du Rhin, c'est aller dans un monde qui est au de l'imaginaire.
Et mettre 2 ans pour y aller. Léo Henry ?
Eh ben, je pense que peut-être que ça vient de l'ASF, ça aussi. Enfin, que c'est aussi ce qui, moi, m'intéresse dans la science-fiction, c'est aussi de la fabrique d'un monde et ensuite de rentrer dans ce monde par la subjectivité des gens qui l'habitent, en fait, et de se poser la question de comment ce nouvel univers est questionné par les gens qui y vivent. Et donc, du coup, c'était la démarche inverse. Enfin, c'était dans l'autre sens, c'était rebâtir, pour moi, comme outil, rebâtir le monde et puis ensuite voir comment il est perçu par des personnages. Ça, c'est important. Après, il y a aussi une autre dimension qui est, je pense que l'autre truc qui m'a intéressé dans ce travail, outre la question de la littérature, c'est vraiment la question de la vie. Et parce que ça me questionne, en fait, de savoir dans quelle mesure on a le droit de passer autant de temps assis devant un ordinateur à écrire des histoires, en fait. Et du coup, c'était essayer de mettre dans ce livre vraiment la vie vivante. Et donc, du coup, c'était aussi toujours de me préoccuper de la vie de mes personnages. Enfin, comment dire, c'était essayer de, quitte à rester immobile pendant aussi longtemps, essayer de figer quelque chose de mobile et de vivant.
Les oiseaux se réveillent et chantent pour attirer le jour. Je me tire hors de ma bicoque, titube jusqu'aux premiers arbres, retrousse mes jupes pour pisser à leurs pieds. L'urine éclabousse les racines et fume dans le matin glacé. Voyez comme elle coule contre la terre durcie, le petit ruisseau qu'elle forme, qui coule entre mes jambes. Ces chevaliers plus proches de leur monture que de leur épouse, ces jeunes gens dormant contre une épée à laquelle ils ont tous donné un nom. Toujours par les chemins, jamais dans leur demeure, comme des brins qui se croisent, se décroisent et ne savent se nouer. Je me relève, hume longuement l'air froid. La mer des nuits est achevée. Je vais vous rendre votre liberté.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
C'est un extrait de Hildegarde, roman de Léo Henry paru à La Volte. Léo Henry, notre invité de ce soir dans Mauvais Genre. Alors, comme le notait Céline, c'est vrai qu'il faut d'abord retrouver, je dirais, la vision du monde et surtout l'être au monde de cette époque du Moyen-Âge allemand au tournant des 11e et 12e siècles. Ces gens qui souffraient dans leur corps, qui se déplaçaient avec une lenteur et une difficulté considérables, qui étaient soumis à la violence des maladies, à une espèce de poids énorme de la nature, et puis également qui fonctionnaient avec un rapport au merveilleux, rapport à la croyance, à la foi, pour ce qui était des miracles, pour ce qui était donc du contact avec les objets, tout à fait particulier. Donc il y a tout un travail anthropologique d'arriver véritablement à reconstituer une vision du monde et un être au monde qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui, notamment sur les distances. C'est-à-dire, ils vont en Italie, ils prévoient 2 ans. Effectivement, c'est une espèce de... Quand une armée descend, c'est un véritable pays qui se déplace. Et puis on sait très bien que recevoir les gendarmes à l'époque n'est pas une chose facile et même considérée comme un châtiment. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, Léo Henry, c'est l'architecture. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est pas un livre où qui a eu un roman, qui a une héroïne qui s'appelle Hildegarde de Bingen, personnage historique. C'est une véritable constellation narrative de voix et de récits tous très différents, puisque vous nous racontez aussi bien les croisades, la descente des croisés vers Jérusalem avec les différents pillages, les prises de ville, l'investissement de Jérusalem elle-même. Il y a cet aspect. Vous nous racontez des légendes du terroir germanique comme les Nibelungen. Vous évoquez des figures totalement fascinante. Alors là, nous qui aimons bien Jacques Bergier, le satiriste, il y a un formidable chapitre sur Jean Trithème, personnage très, très étonnant, d'érudit encyclopédique de l'époque. Il y a toute une construction. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment avez-vous décidé de cette constellation, puisqu'il ne faut pas non plus que ça ait l'air d'une sorte de bloc séparé, puisque vous avez cette dimension fluviale du roman. Alors, comment on articule tout ça, Léo Henry?
Ouh, ça c'est de la petite cuisine, après je sais pas.
Oui, mais c'est de la petite cuisine, ouais.
C'est de la grosse cuisine alors.
C'est de la bonne cuisine.
De la grande cuisine.
La grande cuisine, oui, oui.
Non, j'avais des fils que je voulais suivre. Et effectivement, on a d'un côté, Hildegarde est bornée dans son existence, en fait, par deux dates très fortes. C'est qu'elle naît vraisemblablement quelques jours après la prise de Jérusalem par la première croisade. Et elle meurt à peu près au moment où les premiers romanciers de l'Occident apparaissent, en fait, où la matière orale des contes d'Europe est réunie pour la première fois. Donc du coup, ça me donnait déjà deux axes narratifs romanesques très puissants, en fait, qui est la poupée de la première croisade, qui était la croisade populaire.
Avec Pierre l'Ermite, que vous
voilà,
mettez en
scène. Voilà, avec Pierre l'Ermite, avec Renaud de Dassel, avec des figures absolument incroyables. Le roi Dafour, que j'ai découvert à cette occasion-là, qui est aussi...
Le roi Dafour, on peut en dire quelques mots, parce que lui, c'est un personnage de fantasy, lui, du coup, quasiment.
Et est-ce que c'est un personnage de fantasy? Je sais pas, en fait, c'est très difficile de savoir dans quelle mesure il est accrédité historiquement, mais par contre, en gros, ce sont les plus radicaux des croisés, de la croisade populaire, qui, à un moment, décident qu'ils en ont marre des guerres politiques des différents comtes qui ont pris la tête de l'expédition, puisqu'ils se partagent les terres au fur et à mesure qu'ils avancent, et qui décident qu'en fait il n'y aura aucune terre à partager, et donc ils décident, donc leur fait de gloire historique entre guillemets, c'est d'avoir détruit Marat, qui était une ville qui venait d'être prise, et ils en avaient tellement marre que les chefs se disputent qu'ils ont détruit Marat et, semble-t-il, ont mangé leurs ennemis, ce qui est à l'origine d'une légende absolument terrible dans l'environnement, enfin, en disant que les chrétiens qui arrivent sont des cannibales, en fait, et du coup ce roi Tafour serait celui qui a couronné Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre, puisqu'il refusait de devenir roi.
Donc il y a ce poids des choses, cet univers qui colle à la terre, qui tient au monde, et à côté de ça, il y a les visions, puisque l'univers d'Hildegarde de Bingen, Céline Duchesnay, c'est l'univers visionnaire depuis la toute petite enfance.
Oui, je crois qu'elle a eu ses premières visions à l'âge de 3 ans. Et ça n'a cessé.
Elle est morte à 80 et ça n'a cessé.
ça n'a cessé. C'est raconté aussi dans les procès d'acquisition, donc, enfin, pour la canonisation. Mais c'est effectivement l'histoire d'Hildegarde, c'est ça. Ouais, c'est qu'elle est visionnaire depuis sa petite enfance.
Et en pleine conscience, c'est ça qui est
intéressant. Et en pleine conscience, absolument. Oui. Parce que aussi, à l'époque, c'était pas du tout un fait exceptionnel, en fait, d'être moniale et visionnaire. Il y en avait énormément. Il y avait toutes sortes de visionnaires.
Mais il faut dire aussi que cette période abonde. Oui. En figure de sainteté, en figure visionnaire.
Absolument. Et puis que même cette question-là, de savoir dans quelle mesure les moines sont capables d'avoir des visions véritables, en fait, une question politique de première importance, puisqu'il y a un gros enjeu politique entre les deux clergés à cette époque et entre le pouvoir séculier Voilà, donc tout le monde s'affronte, et donc c'est pas impossible, on peut avoir une lecture très, très pragmatique, que Bernard de Clairvaux, qui est celui qui est le premier atteste de la véracité des visions d'Hildegarde, avait en réalité un objectif derrière, un objectif politique pour ça. Mais à partir du moment, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les visions sont attestées comme véridiques, et c'est assez tard, c'est-à-dire que Hildegarde a 40 ans à l'époque, et elle est donc à la tête d'une communauté religieuse féminine accolée à un couvent masculin, à un monastère masculin, elle décide de faire sécession, ce qui est quelque chose qui s'est jamais produit, et elle emmène avec elle la poignée de moniales qui acceptent de la suivre, parce qu'elle va faire sécession et construire un couvent au milieu de la forêt toute seule, voilà.
Et sans les hommes, c'est je crois que c'est une je voudrais pas me transformer en historienne que je ne suis pas, mais je crois que c'est une première qu'une abbesse comme ça décide de créer son couvent sans avoir l'aval du cousinage
et même contre la vie de son abbé. Ouais. Alors elle emmène un homme, elle emmène Volmar, donc qui est son bon ami, son confident et qui est aussi son secrétaire, parce que elles ont tout de même besoin d'un homme pour dire la messe et pour consacrer
et la confession aussi.
Et la confession.
Jean-Luc Rivera.
Oui, vous évoquiez juste à l'instant là l'aspect politique des visions, et on s'aperçoit que Hildegarde, quelque part, est quand même, bon, qui est une maîtresse femme, hein, manifestement elle a une volonté de faire et elle accepte pas la contradiction, elle sait quand même utiliser ses visions et en jouer pour les uns contre les autres, pour obtenir l'appui du pape, l'appui de l'empereur, etc. Donc, c'est quand même une femme qui, quelque part, est aussi elle-même une fine politique pour aboutir à ses buts.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, c'est aussi un des seuls endroits où elle pouvait obtenir du crédit et de la puissance. Et donc, du coup, c'est aussi un peu difficile de lui en faire le reproche. C'est-à-dire qu'elle commence toujours ses explications en expliquant qu'elle-même ne sait rien, qu'elle n'a aucun avis et qu'elle n'a aucune opinion, mais que l'esprit lui a dit que... Et du coup, on peut y voir une forme de duplicité, je sais pas, de manipulation, mais en même temps, c'est aussi le seul biais qu'elle ait, en fait, pour arriver à ses fins. Et ses fins sont... elles sont nobles, enfin, dans le bon sens du terme. Enfin, je pense qu'elle a désiré faire quelque chose qui était intéressant et qui a apporté ses fruits, puisqu'elle a fini par avoir... Elle était à la tête de deux couvents à la fin de sa vie.
De toute façon, ce qui est très clair à travers votre livre, c'est que, quels que soient les personnages, la foi n'empêche pas les intérêts bien compris. Et on peut être tout à fait sincère dans sa foi. Hein, je pense, par exemple, au portrait que vous tracez aussi du comte Philippe. Et en même temps, voir comment on peut concilier cela avec ses intérêts temporels.
Mais en même temps, ça me paraît comment dire, comme c'est une société dans laquelle la foi n'était pas du tout quelque chose qui est remis en question, en fait, ça me paraît évident, oui, que chacun compose avec la foi et avec ses intérêts. On ne vit pas dans un monde de sainteté du fait que tout le monde croit, je ne pense pas. Enfin.
Lorsque l'agneau brise le septième sceau, il se fait dans le ciel un silence d'une demi-heure. C'est à cet instant que prend fin la musica instrumentalis, que le chant de l'homme qui courait depuis Adam, qui a traversé toute sa postérité, se tait. Il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de récit. Les sept anges autour du trône de Dieu abouchent leurs trompettes et soufflent, l'un après l'autre. Les sons qui sortent ne sont pas de ce monde, et le détruisent, tiers par tiers. La terre brûle avec ses plantes, la mer se change en sang, l'eau des fleuves en absinthe, les astres par paquets s'éteignent, puis des voix désincarnées hurlent ces mots terribles à travers tout l'espace. Malheur aux habitants de la terre, car trois anges doivent encore sonner trois trompettes. La cinquième sonne et une armée de sauterelles à face humaine, à cheveux de femme jaillit de l'abîme. La sixième sonne et 200 millions de cavaliers infernaux surgissent de l'Euphrate pour régner sur la terre. Ceux des hommes qui ont survécu adorent ces démons, sacrifient aux faux dieux, commettent crimes et sortilèges sans connaître de remords. Et la septième trompette sonne à son tour. Voilà, c'est un fragment apocalyptique donc d'Hildegard de Léo Henry, puisque ce roman, enfin est-ce un roman d'ailleurs, on ne sait pas, c'est plutôt un grand chant lyrique et narratif, plus qu'un roman au sens balzacien traditionnel du mot. La fin quand même de ce livre, Léo Henry, c'est l'apocalypse.
C'est l'apocalypse, ouais, mais qui a déjà été raconté précédemment dans le livre. On raconte l'histoire du monde depuis la création jusqu'à l'apocalypse plusieurs fois, c'était mon projet. Mais c'était aussi...
Le vrai projet, c'est raconter l'histoire du monde des origines à nos jours.
Que raconte Hildegard, l'histoire de l'univers, plusieurs fois. Ce qui est intéressant avec tous ces passages-là, enfin à mon sens, c'est aussi, et ça répond peut-être à cette question sur qu'est-ce qui apporte la cohérence de cet univers passé, c'est que je pense que les gens de l'époque vivaient dans un livre. Et il y a ça aussi, c'est que je me suis beaucoup préoccupé du matériau biblique parce que, en fait, ils voient le monde à travers la Bible. Donc, ils ont un livre qui est déjà un livre merveilleux et qui leur sert de filtre pour interpréter l'univers autour d'eux. Voilà. Donc, j'ai trouvé intéressant aussi de revenir à ces matériaux-là. Et voilà, et le récit de l'Apocalypse, mais parmi plein d'autres, et reste un récit absolument incroyable.
Céline Duchesne.
Un des fils rouges aussi qu'on peut trouver qui parcourt tout votre ouvrage, c'est justement le livre, la transmission du savoir. Comment est-ce que à une époque où les livres étaient si rares, où les livres étaient faits à la main, où les lettres étaient vraiment faits lettre par lettre, les phrases pardon, lettre par lettre. J'ai trouvé ça une fois de plus tellement plaisant de se retrouver un peu dans la peau d'un homme ou d'une femme du Moyen Âge et de voir ce que pouvait représenter le pouvoir que pouvait représenter le livre, le pouvoir que la fascination aussi qu'on pouvait avoir de posséder un ouvrage, d'aller lire les livres de l'autre abbaye, de les recopier au plus vite, de les compiler. Et on sait aussi qu'à l'époque, le savoir, ce n'était pas découvrir spécialement de nouvelles choses, c'était emmagasiner tout ce que les autres avaient dit. Donc l'idée de plagiat n'était pas du tout à l'ordre du jour. Et ça, vous nous le donnez à vivre. En tout cas, on le sent à travers votre livre.
C'est ça, mais c'est aussi un univers extrêmement différent d'une autre, c'est ça aussi qui est étonnant, ouais. C'est que cette capacité qu'on a maintenant, de façon presque illimitée, d'accéder à la connaissance, était en réalité beaucoup plus compliquée. Par contre, il y a aussi toute une partie du livre qui repose sur la transmission orale, en fait, c'est qu'il y a très peu, enfin, Hildegard est à l'endroit où on fait des livres, mais c'est un endroit dans le monde qui est extrêmement, extrêmement restreint, et donc il y a aussi toutes ces connaissances, toutes ces choses qui ont été dites, et toutes ces choses qui ont été perdues. Donc il y a ça aussi dans ce travail, je pense, qui est à la fois de me replonger dans des vieux ouvrages poussiéreux, mais aussi essayer de faire réentendre des voix, parce que je crois que c'est une des choses qui me fascine sur l'histoire de la culture, en fait, c'est la quantité de choses qui ont été dites et dont on n'a plus aucune trace, en fait, c'est presque plus intéressant, en fait, que cette masse de connaissances à laquelle on a accès.
Hildegard de Léo Henry aux éditions La Volte, donc à lire sans plus tarder.
Je ferai sauter toutes les tôles, là. Il n'y en aura plus une.
Voilà, avant d'entendre Christophe Beer, deux chroniques de Jean-Luc Rivera. Alors là, on change de monde, on n'est plus dans la pureté et l'harmonie, on est plutôt dans la souillure et l'abîme, ah, monsieur Rivera.
Quand même, nous venons de parler longuement d'Hildegard de Bingen, qui a entre autres guéri...
Il y a quand même dans le livre des scènes de possession,
absolument,
quelques autos d'affaires.
Elle a guéri une noble dame qui était possédée par le démon, etc. Donc, bien évidemment, en parlant de possession, je reste dans le... dans le domaine. Et je vais vous parler d'un livre qui a été écrit par Paul Tremblay, qui s'appelle justement Possession, qui est sorti chez Sodatine. Et c'est un roman fort curieux, qui est aussi, entre autres, un hommage à l'exorciste. Et ça aurait fait très plaisir à Philippe Rouillet s'il avait été là.
Philippe Rouillet, il est à Cannes.
Voilà, il est à Cannes. Et parce
on
que
croit au démon de la célébrité.
Le livre est rempli de références filmiques. Et donc, dans ce roman Possession, on nous ramène 15 ans après les faits à revisiter ce qui s'est passé au sein d'une famille américaine tout à fait moyenne, la famille Barrett. Leur fille aînée, 14 ans à l'époque, Marjorie, s'est mise à agir de plus en plus bizarrement. Alors évidemment, on a été consulter les médecins n'ont rien pu faire, et face à cela, et sans compter, bien entendu, puisqu'on est aux États-Unis, les factures médicales qui s'augmentent de plus en plus, alors que le père vient juste de perdre son emploi, c'est toujours gênant. Donc, le papa, John Barrett, se tourne vers la religion, il devient mystique, sans avoir l'huile de garde, mais il devient mystique. Et donc, il y a son conseiller spirituel, le père Wanderley, qui trouve la solution du 21e siècle. On va pas chercher une sainte, on fait à la place, on appelle une équipe de télé qui va transformer tout cela en une émission de télé-réalité. Comment va-t-on exorciser quelqu'un en direct et vous payez, vous regardez à des heures fixes. Et donc c'est ce qui se passe et nous suivons en fait dans le roman à travers un témoignage double d'une petite fille qui s'appelle Mary, qui a été la cadette et qui adore sa sœur et qui a 8 ans à l'époque, donc à travers ses yeux d'une part et ensuite à travers le recul qu'elle a maintenant qu'elle en a 23, ce qui s'est passé. Et il faut dire que avec beaucoup de finesse, beaucoup de cynisme aussi, Paul Tremblay nous permet d'envisager toutes les explications possibles qui ont amené jusqu'au drame final dont je ne vous parlerai pas. Et en fait, il nous laisse, nous, lecteurs, décider de ce qu'est la vérité, si tant est qu'il y ait une vérité unique. Donc c'est un roman qui est tout à fait remarquable d'intelligence et de psychologie.
C'est aux éditions Sonatine.
Voilà.
Possession.
Alors, là, nous descendons maintenant d'un cran.
Est-ce possible?
Non.
Toujours plus bas avec Jean-Luc Rivera.
Non pas d'un point de vue littéraire, mais d'un point de vue spirituel, puisque avec Le Triomphe des Ténèbres, qui est sorti chez Jean-Claude Attès, premier volume du cycle du Soleil Noir, écrit par Éric Giacometti et Jacques Ravenne, que l'on connaissait pour leurs enquêtes du commissaire franc-maçon Marcas. Là, on retrouve la mystique, mais c'est la mystique dévoyée, la noire du nazisme occulte, celle qui avait été exposée par Jacques Bergier. Alors, dans Le Matin des Magiciens.
Petite virgule, est-ce qu'Hildegard de Bingen a été, ou est-ce qu'on l'a tenté de l'instrumentaliser sous le Troisième Reich?
La réponse est oui.
Mais sous quelle forme? Parce que c'est la musicienne, c'est la
grande figure
la médecine, ou le génie germanique.
Exactement, génie germanique. Ouais, tout à fait. Il y a une statue. Et je crois que même que l'abbaye d'Aibingen a été reconstruite à cette époque. Elle est très belle, dans ce style années 30, très beau, mais qui est effectivement due au contexte politique de l'époque.
Hildegard était arienne, bien sûr.
Fermons la parenthèse, Jean-Luc.
Voilà. Donc, justement, Giacometti et Ravenne nous amènent dans cette Europe au bord de la guerre, celle où on élève une statue à Hildegard en Allemagne. Et donc, il nous présente en 1938 l'Annonerbe, qui est une organisation de recherche.
On avait consacré il y a très longtemps une émission à l'Annonerbe, l'Institut Himmlerien de recherche des antiquités ariennes, si j'ose dire.
Exactement. Et donc, l'Annonerbe, qui recherche dans le monde entier, subventionné et soutenu par Himmler, non seulement les preuves du passé arien, mais aussi tous les objets qui assureront ce renouveau. Et donc, il nous emmène, par exemple, dans cette Espagne qui vient juste d'être matée par le généralissime Franco. Et donc, qu'est-ce que révèle ce tableau qui est caché au fin fond du trésor d'un monastère perdu? En quoi est-ce que ce livre mystérieux qui est le Thule Borealis va-t-il influencer le cours de la guerre? C'est ce que vont découvrir d'une part un énigmatique français qui a combattu aux côtés des Républicains, un militaire anglais plutôt du style ouvert à l'ésotérisme, et une archéologue allemande nazifiante et totalement fermée à ces choses. Et tout ça va commencer dans le sud de la France, à Montségur. Donc, mêlant à la fois des faits historiques avérés et puis une trame, il nous tisse à partir de là une trame d'une histoire occulte qui explique des décisions qui pourraient paraître, qui ont même paru incompréhensibles, comme par exemple, on va découvrir quelles sont les vraies raisons du vol de Rudolf Hess vers l'Angleterre. Donc, voilà un bien beau et bien ficelé thriller ésotérique et qui est érudit, ce qui ne gâte rien.
Merci Jean-Luc. Dernière précision, Île-de-Gardienne, ma chère Céline.
Oui, je voulais vous attirer votre attention sur un spectacle qui aura lieu dans un an, donc il va falloir être un
dans
peu
un
patient.
An.
Oui,
oh.
Et en plus, à Bruxelles.
Ça, c'est la temporalité Île-de-Gardienne.
On
attend de partir à Bruxelles à pied ou à cheval.
Ça vaut vraiment la peine, puisque ce sera dans le cadre du Kunsten Festival des Arts, qui est un festival tout à fait passionnant. Et c'est un projet de François Chéniaud, dont j'avais déjà parlé dans l'encyclopédie Pratique des mauvais genres, donc danseur, chorégraphe, chanteur aussi, historien, et Marie-Pierre Brébant, qu'on connaît bien aussi à Mauvais Genre pour son travail fait avec Xavier Boussiron.
Qui sont en ce moment en Belgique, allez les voir.
C'est quand même la claveciniste la plus iconoclaste qui soit, et donc ce duo a décidé d'interpréter Symphonia de Hildegarde de Bingen. Donc je vous le conseille vivement, ce sera en chant et en danse.
J'aimerais bien aussi voir Hildegarde de Bingen mise en scène par le ZEREP, Xavier Boussiron et Sophie Pérez. Ce serait également un autre genre, mais diablement intéressant. On écoute maintenant, en fin d'émission, bien évidemment, le maître Beer.
Primitivement publié en Italie en 1994, revu et corrigé en 2013, Mario Bava, un désir d'ambiguïté, est édité en français par la dynamique Tour Verte. En replaçant le cinéaste dans le contexte socio-culturel et économique de ses films et dans leur réception critique et publique, l'historien Alberto Pezzotta s'éloigne de l'aveuglement inconditionnel des cinéphiles comme d'une critique friande d'audacieuses équations postmodernes et de l'autodérision dépréciative de Bava lui-même. Chronologiquement, il met au jour une carrière chaotique au gré des productions et des genres, dans laquelle le Ligure exprime très tôt une distance formaliste. Dès Hercule contre les vampires, note l'auteur, la photo cesse d'être au service exclusif de l'intrigue. Elle acquiert une dimension autonome à l'affût du morceau de bravoure, de l'image inédite. Ainsi, le ciel cramoisi obscurcit de nuages noirs qui donnent au voyage vers le jardin des Hespérides l'angoisse tourmentée d'un dessin d'Odilon Redon. Dans un motif aussi simple que le gothique corps et le fouet, Bava n'a de cesse d'instiller le fantastique par son style, plus attentif au décor qu'aux protagonistes, aux lumières artificielles, à l'univers sonore, aux circonvolutions de la caméra. Un sens de la destruction provocante éclate dans son plus gros budget. Danger diabolique assume la vacuité et le mauvais goût d'une période consumériste. Les trucages rudimentaires, la vulgarité des personnages, le refus d'un discours critique en font le triomphe de la dépense dans une débauche d'images saturées d'emprunts et de couleurs vives que Pezzotta qualifie de geste warholien. Longtemps décrié, l'île de l'épouvante est encore plus expérimentale, construisant une esthétique du lait, révélant un désir de gaspillage par l'usage a priori abusif du zoom sans le moindre but. Avec la nihiliste baie sanglante, succession de 13 homicides, le flou devient systématique. Intention poétique de retourner à un chaos indistinct et inorganique, de réduire le suspense, de priver toute chose d'intérêt. Pour l'auteur, Bava était un avant-gardiste malgré lui, que la médiocrité des scripts avait condamné à un formalisme parfois acerbe. À la vision de Cani Arabiati, dont il était si fier, on peut le regretter. Sans surcharge ni ironie, au plus près d'une direction d'acteur méticuleuse, il y exprime une vision désespérée de l'humanité et une violence sans arabesque, autrement plus dérangeante que dans les jeux stylistiques qui ont consacré sa virtuosité. La traduction d'Edgar Balzer outrepasse le simple travail littéraire pour enrichir le texte original de notes et d'une filmographie commentée qui compare les versions italiennes et françaises de chaque titre.
Merci Christophe Bier, merci Léo Henry d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Prochain livre ?
Je travaille sur deux choses. Je travaille sur une fiction radiophonique pour France Culture.
Tiens donc.
Dans l'univers de Yermina Dingrad. Je pense que c'est pour l'automne. Et le deuxième projet est totalement Mauvais Genre aussi. Et je travaille d'ailleurs avec Mauvais Genre. C'est qu'on est en train de travailler à une autrice fictive collective qui s'appelle Adoré Floupette, qui va faire du pulp fin de siècle.
Merci Léo Henry. On sera évidemment très attentifs. En tout cas, d'ici là, lisez, relisez, faites lire et faites relire Hildegarde, le magnifique roman de Léo Henry consacré à Hildegarde de Bingen et paru aux éditions La Volte. À lire également Masque, Corps et Langue aux éditions Classique Garnier, les figures de érotiques dans la poésie musique contemporaine. Proltemblay, Possession, c'est chez Sonatine, Giacometti et Raven. Le Triomphe des Ténèbres, c'est chez Lattès. Toute l'équipe de Mauvais Genre. Laurent Polleret, Bruno Mourlan, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, Jean-Luc Rivera, Christophe Bir et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une autre émission de Mauvais Genre consacrée cette fois à Frankenstein. Thank you.